Bonjour tout le monde, bienvenue à ce, je pense que c'est l'épisode 7, ouais, épisode 7 du podcast de la pioche. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe, hein, comme d'habitude. Je vais parler principalement, là, je vais faire un petit retour, comme j'ai mentionné la semaine passée, sur une petite escapade de Montréal pour le sommet des détaillants d'un de mes distributeurs, qui est Universal Distribution, qui distribue toutes sortes de choses. Donc, des jeux de société, les cartes à collectionner, il y a aussi des cartes de sport, toutes sortes de cossins aussi là, à collectionner, des objets, des figurines, etc. Fait que c'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je n'ai pas nécessairement de grosses actualités non plus à parler d'entrée de jeu. Je pense que je vais en parler dedans parce qu'il y a quelque chose qui concerne les Magic aussi qui va être intéressant dans les nouvelles qui est sorti en même temps que j'étais là-bas. C'était prévu comme ça. Et c'est ça, je pense que ma voix est quand même pas trop pire. J'ai un petit fond de mal de gorge, mais qui semble s'estomper là, sans trop de problèmes. Fait que on va espérer que ça aille pour le mieux. Et donc ça ressemble un peu à ça, là. Ce que je veux parler aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et ça va être assez short and sweet ce matin à ce niveau-là. Puis j'ouvre encore la même boîte de cartes que j'ouvrais la semaine passée. Je n'ai pas eu le temps de la finir finalement. J'ai quand même beaucoup de choses à faire dans les prochaines semaines, dont beaucoup de comptabilité pour envoyer mes taxes. C'est toujours le rush aux 3 mois, là. Je ne réussis jamais à reprendre le dessus assez pour avoir de l'avance à chaque fois. C'est très difficile là-dessus. Souvent le nerf, pas le nerf, mais le talon d'Achille des petits entrepreneurs, c'est d'être à jour dans sa comptabilité. C'est vraiment pas toujours facile. Faut que je me trouve des méthodes pour être un petit peu plus assidu là-dessus, mais bon, en tout cas. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. J'espère qu'en janvier, je vais mieux reprendre ça pour pas plus prendre trop de retard. C'est ce que je me dis à chaque fois, mais on dirait que j'y arrive jamais. Donc, si je fais un petit retour sur mon escapade à Montréal, ben ça a commencé en fait. Je me dirigeais à Sherbrooke pour le samedi. En fait, c'est pour. Mon 10e anniversaire, 10 ans de fin de bac en génie civil. Fait que j'allais retrouver des gens ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Fait que c'était super le fun de faire ce petit retour-là. Il y a des gens que j'avais quand même vu là, pas si longtemps que ça. Fait que c'était pas. Mais il y en a que ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu. C'est toujours drôle de revoir des gens avec qui tu as fait des études. Fait que c'était ça, je n'irai pas plus loin que ça, là. Ça n'a pas très de pertinence avec le podcast. Et le lendemain, mais ça donnait bien parce que c'était entre mon chemin. Dans le fond, je passais de Sherbrooke à Montréal, mais je devais arrêter par Waterloo parce que Mathieu de Onjoutu, qui habite normalement en Suisse, mais qui est originaire du Québec, était venu faire un petit passage au Québec. Sa famille, ses parents viennent de Waterloo. Fait qu'il était là. Et donc, il y avait une petite rencontre là, qu'il faisait avec ses abonnés québécois. Une journée de jeu. Et je suis passé faire un petit tour. Là. J'ai joué à deux jeux. Deux jeux dont le premier, c'était Bottle Imp, qui est un petit jeu de pli. On a joué à 3 joueurs. Première ronde qu'on a fait, on a manqué quelques règles. Mais deuxième round, ça a mieux été. Grosso modo, deuxième, troisième round, je pense qu'on faisait 3 rounds de jeu. Grosso modo, c'est un jeu de pli dans lequel tu vas avoir des cartes de 3 couleurs différentes. C'est toujours la plus haute carte qui l'emporte. Sauf si tu joues en bas de la valeur de la bouteille qui part à 19. Puis c'est les cartes qui vont de 1 à 34, je pense. 37. Donc si tu joues en bas, ben, tu vas récupérer la bouteille. Puis la bouteille, tu n'avais pas nécessairement à la fin parce que tu fais des points négatifs si tu l'as à la fin. Fait que c'est toujours une tension de dire que okay, je vais aller chercher des plis pour gagner des points parce qu'il y a des points sur les cartes. Mais je ne veux pas me ramasser à la fin avec la fameuse bouteille. Et tu peux aussi jouer si les cartes, il y a plusieurs cartes qui sont jouées en dessous de la valeur de la bouteille, bien, c'est la valeur la plus haute dans ces cartes-là qui remporte. Donc, tu es capable de passer des fois les petites cartes, dont le fameux 1, 2, 3, que tu ne veux pas rester pris avec à la fin de la partie, parce que c'est sûr que tu remportes le pli. Parce que ça va être, ben, pas nécessairement sûr. Non, c'est pas sûr. Ça dépend qu'est-ce qui est joué d'autre, puis quelle est la valeur la plus basse qui a été jouée. Mais si le 1, tu ne le joues pas comme ça juste pour le plaisir, parce que ça va te ramasser, la valeur de la bouteille va devenir 1, et tu vas être pris avec la bouteille jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a plus rien en bas de 1. Fait que c'est un petit peu la tactique d'essayer de le faufiler quand d'autres joueurs vont jouer en bas de la bouteille et que c'est la bonne couleur, parce que c'est la couleur demandée toujours qu'on doit jouer. Fait que ça, c'est pas toujours évident. Mais en jouant la couleur demandée, bien, ben, en fait, si on en a la couleur demandée, on n'a pas le choix de la jouer. Fait que des fois, on n'est pas capable de passer justement ces petites cartes-là. Et ça crée une belle tension dans le jeu. J'ai bien aimé ce petit jeu de pli, Bottle Imp. Et j'ai eu la chance aussi d'essayer un jeu qui était sur ma liste à jouer, ma liste courte à jouer, qui est Age of Steam. J'avais déjà joué à Steam, mais pas à Age of Steam, qui rajoute dans le fond un aspect assez tendu sur comment dire, pas économique, mais un aspect de gestion d'argent qui est quand même assez important, puisque, grosso modo, Age of Steam, on va bâtir des réseaux de chemin de fer pour livrer des ressources dans les différentes villes et faire avancer notre piste de revenus et piste de points en même temps. Comme ça. Comment ça va se jouer? C'est que première chose qu'on va faire, c'est qu'on peut émettre des actions, donc pour que les actionnaires achètent ces actions-là et nous donnent de l'argent. Mais ces actions-là, il faut les rembourser à la fin de la partie en termes de points. Donc, c'est 3 points par action émise. Donc, c'est une façon d'aller chercher du revenu. On décide combien. Tu peux dire, ben, je vais émettre 10 actions, ça va te faire un revenu. C'est 5 $ par action, tu vas avoir 50 $ que tu vas pouvoir utiliser. Mais à chaque tour, tu vas payer de l'intérêt là-dessus. Tu vas payer des dividendes d'une certaine façon. Donc, tu ne vas pas tout chercher d'un coup. Tu essaies d'y aller vraiment selon tes besoins. Après ça, on va miser sur l'ordre de tour. Donc, il y a des enchères pour déterminer l'ordre de tour. Et après ça, selon l'ordre de tour, on va décider une action spéciale qu'on veut faire. Donc, ça peut être d'être le premier à vendre des marchandises, même si on n'est pas le premier joueur. Être le premier à placer des pistes. Et il y a plusieurs maps aussi disponibles dans le jeu. On a joué la map de Pittsburgh. Et c'est assez tendu. Après ça, on va poser des tracks. On peut poser de 0 à 3 tracks. 3, j'ai pas le mot. Rails de chemin de fer. Et on essaie de relier des villes. Dans la map de Pittsburgh, ben, les pistes qui étaient droites coûtaient 10 $, étaient très chères. Mais les autres coûtaient moins cher. Parce que les villes étaient très proches, donc c'était facile de les relier avec juste une piste droite, mais tu peux l'utiliser avec deux pistes courbes qui coûtaient 6, c'était moins cher, donc ça faisait des courbes beaucoup sur le plateau. Ensuite de ça, bien, on va livrer des marchandises, donc il faut prendre un cube d'un endroit où on a une piste qui commence et l'amener à sa couleur, parce qu'il y a des villes de différentes couleurs. Et chaque piste qu'on passe à nous, bien, on va avancer de 1 sur notre piste de revenu. Par contre, il faut avoir assez de distance avec notre train. Donc, notre train va falloir augmenter sa distance de livraison pour être en mesure de livrer de plus en plus loin. Donc, on va essayer de bâtir le meilleur réseau possible, mais tous les autres joueurs aussi peuvent venir un peu changer nos tracks. C'est beaucoup un jeu, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs parce qu'on peut bloquer les autres joueurs, décider de prendre les ressources qu'ils veulent vendre avant eux. Est-ce qu'on y va à tour de rôle? On peut prendre les actions spéciales pour vendre avant l'autre. Et c'est assez tendu. Et après ça, on va mettre des nouvelles ressources sur le marché. Et ça, c'est fait de façon aléatoire. Donc, si on lance des dés, et en fonction des cubes qui sont dans la réserve, on va les mettre sur le plateau. Fait que ça, c'est, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, on subit un peu ça d'une certaine façon. Qu'est-ce qui s'en vient sur le marché? Qu'est-ce qui est en demande. Quoique, on est quand même capable de. On est capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient à telle ville parce qu'ils sont classés par chiffre de ville. On ne sait juste pas quand cette ressource-là va arriver, mais on sait qu'elle va arriver éventuellement ou peut-être jamais. Fait que c'est un petit peu là l'aspect hasard. On est quand même capable de voir quel type de ressource va arriver à cette ville-là. Et finalement, on va juste refaire des manches comme ça. On a fait, c'était 8 manches cette partie-là. Donc c'est assez tendu, surtout sur les mises, qui va être premier, quel bonus on va aller chercher, comment on bâtit notre chemin pour être le plus efficace possible, être pas trop mal pris parce qu'on peut juste livrer, faire deux actions de livraison à notre tour. Fait que c'est pas tant que ça qui va augmenter notre piste de score. Ah, j'ai oublié aussi à la fin. D'une manche, on doit toujours faire notre revenu, mais après ça, payer nos dettes. Donc, toutes les actions qu'on a émises, l'avancement sur la distance de livraison va nous coûter quelque chose aussi. Et on va donc devoir payer ça. Si on n'est pas capable de payer, mais on perd des points. Et en plus, sur la piste d'avancement de revenus, éventuellement à un certain niveau, bien, on va devoir reculer en termes de points. En termes ouais, sur la piste, en fonction de la zone où on se retrouve. La première zone qui est en 11 et 20, je pense, quand on est sur cette piste-là, on recule toujours de 2 quand on reste dans cette piste-là. Sur la section après, c'est de 4. Fait que des fois, on avance, mais on recule d'autant dans une même manche. Fait que ça peut venir de plus en plus dur de se rendre de plus en plus loin. Et c'est aussi les points qu'on va faire à la fin. On multiplie par 3 le score. Fait qu'on essaye d'être le plus loin possible sur cette piste-là par rapport aux actions qu'on a émises, entre le revenu qu'on fait et les actions qu'on émet pour faire le revenu. Fait qu'on essaie de faire le plus de revenus possible rapidement, mais c'est vraiment pas évident. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu-là. J'avais hâte de le jouer et j'ai pas été déçu. Je pense que d'autres maps aussi peuvent être très intéressantes. Fait que ça a été une très belle expérience. Je suis très, très content de pouvoir le jouer. Fait que ça a bien à donner. Mon petit passage m'a permis d'essayer un jeu que je m'attendais pas. Puis même Bottle Imp, ça m'a agréablement surpris aussi. J'en joue pas énormément des jeux de pli, mais j'aime quand même ça aussi. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir mon épisode. J'ai un employé qui rentre à 10h, puis là, il est 9h50. Je vais peut-être être capable de continuer pendant qu'il est là, mais c'est un peu drôle. On va essayer de finir ça shorty, mais j'ai même pas rendu à mon événement. Donc là, je me suis déplacé après ça justement à Montréal où on avait des conférences de différents éditeurs de jeux. Là, j'en ai manqué une partie parce que je suis arrivé un petit peu plus tard. J'ai essayé de combiner toutes mes affaires en même temps. Fait que je ne suis pas très déçu, je vous dirais. Pour ceux que j'ai vus, souvent, ben, c'était des choses qu'on savait déjà ou même il y en a qui présentaient une vidéo. J'ai comme, ah, ok, j'aurais pu l'écouter, j'aurais pu me l'envoyer puis j'aurais pu l'écouter. C'était pas. C'était-tu nécessaire d'être vraiment là? Sinon. Fait que ça, c'était les journées de conférence. C'était intéressant, mais tu sais, rien de fou. Tout ce qui parlait de jeux, parce que c'était pas juste des jeux, il y en a qui c'était des dés, il y en a qui c'était moins intéressant pour moi. Mais intéressant en général. Celui que j'ai trouvé peut-être plus intéressant, c'était celui d'Upper Deck sur les cartes de hockey, tout ça, parce que j'ai commencé à en avoir. Puis c'est intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'en vient, etc. Les attentes du marché. Fait que ça, c'était. Intéressant pour moi vu que je connais pas encore beaucoup ce milieu-là. Fait que ça, j'étais content d'aller voir ça. Wizard of the Coast, c'était principalement tu sais, Magic, mais on sait qu'est-ce qui s'en venait. Ils n'ont pas annoncé dans la conférence en tant que telle, mais juste après, je pense que ça a été annoncé officiellement qu'ils vont maintenant plus avoir de boîtes de boosters et plus de sets boosters, mais ça va être mixé ensemble pour être des play boosters. Et ça va être des boosters, dans le fond, qui ressemblent à des sets boosters. Qui en gros avaient plus de cartes rares, mais qui peuvent être draftées. Fait que ça va être ça principalement. Puis ça risque d'être au prix du set booster. Fait que des boosters vont être finalement plus chers pour Magic par rapport à ceux qui achetaient plus des draft boosters. La boîte, par contre, au lieu d'être de 30, va être de 36. Fait que le prix va être un petit peu plus bas par booster que les 7 boosters. Fait que ceux qui achetaient beaucoup de 7 boosters vont être un petit peu plus gagnants, dépendant des odds qui vont sortir dans les paquets. Il n'y aura pas nécessairement tout le temps une carte d'or, tandis que dans les 7 boosters, tu avais toujours des cartes d'or. Et là, ça va être soit un token, soit une carte d'or, soit une carte de promo. Fait que, de promo, mais de publicité. Fait que ça va être un petit peu moins gagnant là-dessus. Essayer de mixer les deux. Moi, je suis quand même content de ça parce que je ne vends pas nécessairement beaucoup de drafts, mais j'en commande aussi, mais je ne sais jamais trop comment en commander. Puis c'est le fun d'en avoir pour ceux qui veulent venir acheter une boîte et faire un draft, mais des fois, tu restes un petit peu prêt avec. Puis les 7 roulent beaucoup plus à l'achat à l'unité. Fait que je suis quand même pas déçu de cette. Ça va être moins de gestion d'inventaire pour moi. Moins de les quantités vont être plus faciles à gérer à ce niveau-là. Ça va plus rouler dans mon stock. Fait que ça, je suis quand même très content. Fait que c'est pas une mauvaise chose pour moi. Je pense que pour d'autres boutiques, peut-être ça va être moins intéressant. Mais c'est sûr que le consommateur, au final, lui qui consommait beaucoup de draft booster, va être quand même perdant parce que ça va coûter plus cher au final. Ça, c'était un peu la grosse nouvelle de Wizard of the Coast pour Magic the Gathering. Sinon, il y avait une petite soirée de jeu, là. Le samedi soir, ouais. Non, le dimanche soir. C'était le dimanche et lundi. Le dimanche soir, fait que c'était une soirée dans laquelle on allait voir un peu l'éditeur puis essayer les jeux et nous présenter. Moi, c'est sûr, j'étais allé là seul de ma compagnie. Fait que c'était moins intéressant vu que plus difficile d'essayer des jeux avec plus de monde quand tu arrives seul. Puis les autres compagnies, les autres boutiques, ben, ils se promenaient un petit peu en leur gang puis ils allaient d'une place à l'autre. Fait que c'était peut-être moins intéressant pour moi. J'ai essayé quand même quelques trucs pareils, dont un des nouveaux Draft and Write de Inside Up Game, qui est un jeu de monter un band de musique. Malheureusement, la copie qu'il avait amenée, il manquait des cartes dedans. Bon, il s'est trompé il y a des cartes qui n'étaient pas remises dans la boîte qu'il a apportée. Fait que il n'a pas réussi à faire une partie complète, mais je trouvais ça intéressant. Des Draft and Write, il n'y en a pas beaucoup. L'aspect de sélectionner qu'est-ce que tu veux. Il y a Boomerang qui le fait très bien. Mais lui, faisait très bien aussi. Fait que je pense qu'il va être assez intéressant. Puis beaucoup de combos à débloquer. Fait que c'est sûr que je vais en avoir en boutique quand ça va arriver. Il m'a dit, je pense, fin novembre, si je ne me trompe pas. Il commence à livrer les backers. Fait que c'est Draft and Write. Je ne me souviens plus. Ben, je me souviens pas du reste du titre, malheureusement. Ensuite de ça, j'ai aussi essayé Sunrise Lane, nouveau Kinesia. Petit jeu bien simple. On va bâtir des bâtiments. Sur un plateau, il y a des majorités qui se fait selon les hauteurs ou selon l'air que tu complètes. Puis à ton tour, soit tu pioches des cartes, soit tu joues des cartes pour placer sur des différentes couleurs de cases. Puis il y a des chiffres dessus, puis ça multiplie en fonction du nombre de bâtiments. Fait que tu fais autant des points dans la partie, plus les points de fin de partie. Fait qu'il y a un aspect course dans le jeu. C'était très sympathique, on a joué à deux, peut-être pas la meilleure configuration, mais c'était très bien malgré tout. Sinon, j'ai aussi essayé quelques nouveaux jeux de cartes à collectionner, dont Flesh and Blood, qui m'intéressait quand même pas mal. Puis j'ai été agréablement surpris par le jeu, sincèrement. Dans les TCG récents, je sais qu'il a bien fonctionné. Puis je peux comprendre pourquoi. Il est vraiment différent d'un Magic ou Pokémon, peu importe. Ben, ils sont quand même différents les deux aussi. Mais le fait que la grosse différence, c'est que tu vas jouer des cartes et tu vas repiocher ta main tout le temps à chaque tour. Fait que c'est pas une carte par tour comme beaucoup de TCG. C'est assez intéressant cet aspect-là. Tu as une dynamique de cartes de défense. Tu peux te bloquer en jouant les cartes de ta main. Tu peux bloquer les attaques adverses, mais tu repioches pas avant le début de ton nouveau tour. Fait que tu as tout le temps cette tension-là de dire, OK, est-ce que je bloque ou je prends le dommage? Est-ce que je bloque ou je prends le dommage? Parce que je vais pouvoir jouer après à mon tour. Tu peux faire une action par tour, sauf il y a des cartes qui ont Go Again dessus, mais s'il y a des effets qui se résolvent, ça leur donne Go Again. Fait que tu peux rejouer une autre action. Mais si c'est pas résolu, tu peux pas jouer encore. Fait que il y a vraiment beaucoup plus. C'était des decks de départ. Fait que c'est pas nécessairement les meilleurs decks, là. C'était assez intéressant à ce niveau-là. Fait que pour C'est ça, pour Flesh and Blood. J'ai aussi essayé Genesis. Genesis, qui est un nouveau jeu canadien, espèce de jeu de tactique et échec, mais carte à collectionner, fait que tu vas mettre un héros sur le plateau, puis tu vas le déplacer comme un peu aux échecs, mais tu vas aussi mettre d'autres créatures sur le jeu pour aller réussir à éliminer l'autre joueur. Tu as un certain nombre de power que tu peux utiliser durant la partie. C'est des gros decks, je trouvais, pour le nombre de cartes que tu piochais dans la partie. Tu repiochais toujours juste une carte. C'était quand même bien, mais ça me semblait pas au point encore. Mais bon, j'ai pas assez joué non plus là, pour faire des grosses critiques, mais il m'a moins impressionné que Flesh and Blood. Puis je voyais pas l'intérêt d'avoir un jeu de ce style-là en carte à collectionner. Mais bon, ça, il y a bien des jeux, des fois, tu te dis pourquoi c'est dans ce modèle-là. Je pense que le monde, il voit peut-être. Je sais pas. Il voit beaucoup de revenus possibles, mais en même temps, si ça fonctionne pas, c'est moins de revenus possibles, j'ai l'impression. Parce que tu vas produire beaucoup de cartes pour peut-être que ça lève pas tant que ça. Mais bon, c'est quand même intéressant malgré. Il y avait des concepts intéressants, mais je l'aurais peut-être vu en jeu bien standard avec des différents decks de personnages, puis avec des extensions futures, mais sans avoir l'aspect à collectionner. Parce que j'ai l'impression des fois, l'aspect à collectionner, ben, il faut que tu aies un intérêt aussi sur les cartes de jeu, l'univers, etc. Un peu la même chose pour Flesh and Blood, là. Il y a un univers, mais c'est un univers assez commun. Fait à quel point tu veux collectionner ça, c'est tout le temps la question aussi. Je pense le pourquoi Disney Lorcana marche beaucoup, ben, c'est en fonction de la collection que tu peux aller chercher aussi. Là, je vais devoir ouvrir la boutique. Fait que je ne sais pas trop comment je vais finir ça. J'en reparlerai au pire la semaine prochaine. Du reste du. On fera une partie 2. Du reste de ce que j'ai vu, parce qu'il y a quand même encore pas mal de choses à dire. Ou je sais pas trop. Ou. Ouais, je risque de continuer la semaine prochaine. Fait que ça va être une partie 2 la semaine prochaine de cette convention à Montréal. Et donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Et on va se revoir la semaine prochaine. Si vous voulez me rejoindre, info@boutiquelapioche.com. Aussi sur le Discord, sur le Facebook, sur boutiquelapioche.com et tcglapioche.com aussi. Si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez m'écrire en tout temps. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.